Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.
All right, stand still. Stay where you are, don't move. Put up your hands. Your hands up or we'll shoot. Your name?
Ray Bradbury.
Speak up.
Ray Bradbury.
What are you doing now?
Walking.
Walking? Walking, just walking? Walking?
Yes, sir.
Walking where, for what?
To breathe the air. To see things.
You've done this often?
Every night for years.
Well, Mr. Bradbury.
Is that all?
Yes. Here. Get in.
But you don't understand. I haven't done anything.
Get in.
I wrote The Pedestrian, a story of a time 50 years from now when a man is arrested by a robot car. He is taken off for a clinical study because he insists on looking at untelevised reality and breathing unair-conditioned air.
And about a year later, 2 years later, I took that story out and I was looking at some other notes about firemen, and I suddenly decided to take that pedestrian out for a walk again. And I went to my typewriter, started walking the pedestrian, changed the sex to a girl, Clarice McClellan, had her turn a corner and smell kerosene, and 9 days later, Fahrenheit 451 was finished as a novel. So thank God for that policeman, huh?
Voilà, alors une façon inhabituelle de démarrer cette émission de lecture par tous. Alors ceux qui ne comprennent pas l'anglais se disent « mais qu'est-ce qu'ils nous font ?» Ceux qui ont compris l'anglais savent déjà de quoi nous allons parler. Alors, la voix que vous avez entendue, c'est celle de Ray Bradbury. Ray Bradbury, je pense que le nom est familier, parce que même certains parmi les plus jeunes d'entre vous ont peut-être même étudié ça au collège. Ray Bradbury, ce qu'on appelle un auteur de science-fiction, alors que lui-même, science-fiction, il ne s'y reconnaissait pas vraiment. Il dit, en fait, j'ai écrit un seul livre de science-fiction, c'est Fahrenheit 451, le livre dont nous allons parler. Après, il dit qu'il était considéré plutôt comme un auteur de fantasy. Bon, on va laisser ces catégories-là aux critiques. Alors, cette émission, nous allons la consacrer à Fahrenheit 451. Alors, ce qu'on entendait, c'est un peu les origines du roman. Hein. Ray Bradbury, alors, il y a une petite mise en scène qui était faite dans ce documentaire, dont j'ai extrait le son. Au début, il se promène dehors et puis il est arrêté par une voiture de police où il n'y a pas de policier dedans. C'est une voiture automatique, hein, on est dans une époque très moderne, qui l'interpelle. Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Et lui dit, je prends l'air, je regarde les choses, du coup, c'est bizarre, non, ça ne va pas. Rentrer dans la voiture, il l'embarque, quoi. Il ne veut pas, ici, il l'embarque quand même. Et ça fait référence à un épisode réel que Ray Bradbury a vécu. Il se promenait et puis il a été arrêté par un policier. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Parce qu'il se promenait dans la ville. Il était dans une réalité où il ne s'occupait pas de télévision. Il voyait la vraie réalité, pas à travers la télévision, pas à travers les médias. Voilà. Et puis, il a écrit cette nouvelle qui s'appelle « Le piéton ». Et puis, un peu plus tard, c'est devenu... il a rajouté un pompier, c'est devenu le pompier. Il a rajouté des personnages. Il a loué une machine à écrire. Oui, il l'a loué, on le raconte, pour quelques cents de l'heure.
10 cents de l'heure.
Voilà. Et puis... il s'est mis à écrire Fahrenheit 451. En 9 jours, le roman était écrit. Et on n'a pas fini d'en parler depuis, à preuve, cette émission. Alors aujourd'hui, avec moi pour parler de Fahrenheit 451, Hélène Honora. Bonjour Hélène.
Bonjour Marc.
Voilà, donc on a lu attentivement le roman. J'en profite, ça me permet d'évoquer les activités des collecteurs. Hein. On a des rencontres entre lecteurs passionnés régulièrement. Et puis, il y a quelques mois, Hélène nous a proposé de faire une lecture commune, croisée, de Fahrenheit 451, avec certains lecteurs qui disent « Oh, moi, la science-fiction, c'est pas... Non, j'aime pas ça. » Qui en ont peut-être jamais lu, mais ils aimaient pas ça. Voilà. Et donc, résultat de ça, on s'est dit « Allez, on va faire une émission autour de Fahrenheit 451. » Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Fahrenheit 451 ? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de plus ? Bon, voilà, un roman inventé, créé en 9 jours.
Publié en 1953.
Ouais.
Oui, j'ai un œil innocent, ingénu, parce que je n'ai vu aucune des adaptations de Fahrenheit. Je n'ai pas vu le film de Truffaut, ni le téléfilm plus récent. Mais grâce à Marc, j'ai visionné une partie de l'interview que Truffaut avait donnée en 1966 à la sortie de son film. Et François Truffaut disait que quand il avait entendu parler de Fahrenheit, il y avait des éléments qui lui avaient paru excitants et importants. Le fait qu'il s'agissait d'une société où la lecture était interdite, où on avait interdiction de lire, le fait qu'on brûlait les livres quand on en trouvait, et que des intellectuels, néanmoins, en apprenaient par cœur.
Voilà. On entendra, j'avais prévu, on l'entendra tout à l'heure, avant de parler des adaptations, on entendra la voix de Truffaut qui présente cela.
Alors, je pense qu'il y aurait quelques nuances à apporter à ces propos, parce que, d'abord, la lecture n'est pas complètement interdite dans Fahrenheit, et j'y reviendrai tout à l'heure éventuellement pour voir quelles sont les catégories de lecture qui sont rescapées, qui sont encore autorisées. Ensuite, un point important, c'est que l'histoire n'implique pas seulement des intellectuels. Montague, le héros, n'est pas un intello, c'est un pompier, un ex-pompier de fraîche date. C'est un exécuteur de basses œuvres. Et pourtant, à la fin, lui aussi va se transformer en homme livre et vouloir conserver la mémoire de l'écrit et de la littérature.
Voilà. Alors, quand on dit que c'est un pompier, je pense qu'il faut peut-être préciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas le roman, on se situe à une époque indéterminée, hein, le futur pour Ray Bradbury, dans un pays tout aussi indéterminé, où les pompiers, y compris c'est dans le récit qu'on fait de l'histoire des pompiers, ne sont pas là pour éteindre les feux, ils sont là pour brûler les livres, essentiellement, et éventuellement les maisons, voire ceux qui protègent les livres. Hein, voilà. Donc Montag est un pompier qui, lui, brûle des livres. Hein. D'ailleurs, le roman commence avec ça, où il parle de ce plaisir qu'il a à brûler les livres. Donc, ce qui est assez étrange, d'ailleurs, il connaît quand même les noms des auteurs.
Oui, il a caché certains livres derrière la grille.
Ça viendra un petit peu après.
D'aération, ouais. De climatisation. Et il a quand même, là aussi, la conscience qu'il existe autre chose. Autre chose que la technologie qui est censée rendre heureux.
Alors, voilà. Donc, pompier, alors tu nous disais, alors, les thématiques qu'il y a dans ce roman. Alors, on n'a pas beaucoup de personnages. Hein, Il y a le pompier
Montag.
Donc, Guy Montag, hein, Guy Montag, si on veut le dire en version originale. Il y a une
supérieure.
Jeune femme très importante qui va
Clarisse.
Déclencher le doute chez lui, qui est Clarisse McClelland.
Qui disparaîtra très vite.
Hein, voilà, qui disparaîtra. Il y a sa femme.
Sa femme Mildred.
Mildred. Et puis il y a deux
son
autres personnages
importants. Le capitaine
des pompiers. Beatty, il n'a pas de prénom, il a juste un nom dans le roman. On en reparlera.
Et
puis
l'ancien
quelqu'un
prof.
Qui va l'aider, Faber, qui est dans ses Faber, si vous voulez. Le nom, peut-être pas par hasard, c'est celui qui fait quand même
Bien
en
sûr.
Latin.
Hein.
Voilà, qui va l'aider. Et puis, après, les autres personnages sont très... très en retrait.
Et puis à la fin, bien sûr, les hommes livres, ceux qui ont appris par cœur les classiques de la littérature.
Voilà. Alors, donc les thématiques. On a cette idée des livres qu'il faut à tout prix détruire. Pourquoi il faut détruire les livres ?
Les livres font réfléchir. Donc, le Fahrenheit est extraordinairement prémonitoire au niveau technologique, on pourra y revenir à propos de la technologie, et puis au niveau sociologique et philosophique. Il faut éradiquer la pensée, donc les livres, donc la littérature. Et le capitaine des pompiers, donc, qui se livre tout à coup à Montag, évoque les moyens d'y parvenir. Alors, les sports, la vitesse, et puis les distractions, autres bien sûr que la lecture. Alors, on n'a plus besoin de penser, non ? Je vous lis quelques extraits. Organisé, de super, super sport. L'esprit absorbe de moins en moins. Impatience. Autoroute débordante de foules qui vont quelque part, on ne sait où, nulle part. Hein, parce que quand ça ne va pas...
On prend la voiture et on roule à toute vitesse.
À 150 à l'heure à l'époque, voilà.
Et si on roule à 60, c'est suspect, on se fait arrêter.
C'est le minimum autorisé, voilà. Et quelque chose d'intéressant, c'est le rôle des minorités, et de prémonitoire aussi. À présent, prenons les minorités dans notre civilisation, d'accord ? N'allons surtout pas marcher sur les pieds des amis des chiens, amis des chats, docteurs, avocats, commerçants, patrons, mormons, baptistes, unitariens, chinois de la seconde génération, suédois, italiens, allemands, texans, habitants de Brooklyn, irlandais, natifs de l'Oregon ou de Mexico. Donc c'était bien avant qu'on écrive des livres comme L'archipel français. Et pourtant, on voit que les minorités ne veulent pas être, on dirait maintenant, stigmatisées. Il faut que toutes les composantes de la société soient égales. Alors, Faber aussi en parle à Montag à la fin. Mais là, le capitaine, qui voit très clair, dit « Le mot intellectuel est bien entendu devenu l'injure qu'il méritait d'être. » On doit tous être pareils. Nous ne naissons pas libres et égaux, comme le proclame la Constitution. On nous rend égaux. Chaque homme doit être l'image de l'autre. Comme ça, tout le monde est content. Conclusion, un livre est un fusil chargé dans la maison d'à côté. Brûlons-le. Voilà pourquoi il faut brûler les livres. Et qu'est-ce qu'on a gardé, malgré tout ? On a gardé les BD. Il le dit, le capitaine des pompiers, on a laissé survivre les bandes dessinées. Et à l'époque, les BD ne s'adressaient pas comme maintenant aux adultes éclairés.
Oui, on est en 53. Hein, voilà. Donc, c'est les comics, comme américains. Et bon, c'est pas ce qui va se passer à la fin des années, enfin au milieu des années 60, où la BD tout d'un coup va devenir s'affirmer comme art.
Exactement.
Et s'adresser aussi aux adultes.
Ça n'était pas encore le cas, d'où la condamnation implicite de Bradbury, qui aimait par ailleurs beaucoup les BD. Et qu'est-ce qu'on a gardé aussi ? C'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure quand je disais il n'est pas complètement interdit de lire. On a gardé les revues érotiques en trois dimensions naturellement. Voilà, et conclut le capitaine, tout ça n'est pas venu d'en haut. Il n'y a pas eu de décret, de déclaration de censure au départ. Non, la technologie, l'exploitation de la masse, la pression des minorités, et le tour était joué. Tout ça pour assurer votre bonheur.
Voilà, donc pas de livre, parce que ça fait réfléchir, et réfléchir, ça rend malheureux. Ça fait pleurer, on a une scène du film, on a... une des amies de Mildred, donc l'épouse de Montag, qui il va être amené à lui lire de la poésie et elle va pleurer. Alors on devine pourquoi d'après la teneur de la poésie, mais voilà. Et donc sa femme lui en veut terriblement. Voilà, t'as encore. Et l'autre amie en veut aussi beaucoup à Montag. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, je savais que c'était ça. Ben voilà, les livres, ça fait pleurer, donc il faut les brûler. Parce qu'on ne veut pas pleurer, on doit être heureux, on veut être heureux. Hein ? Alors, c'est vrai que c'est assez effrayant, d'autant plus qu'on se dit, mais on y est en plein.
Alors, exactement, on doit être heureux et la technologie se charge d'assurer cet environnement euphorique. Donc, sur ce plan-là aussi, Fahrenheit, c'est fantastiquement, si j'ose dire, prémonitoire. Il y a d'abord les petits coquillages, les petits dés qu'on s'enfonce dans les oreilles jusqu'à se rendre complètement hermétique au monde extérieur. Donc ça, c'est la préfiguration de nos écouteurs, de
voilà,
MP3,
hein, c'est l'épouse de Montag, Mildred, qui met ces trucs dans les oreilles.
Et en jour fait, et nuit.
Qui a toute la nuit de la musique, on ne sait pas exactement quoi, voilà, mais c'est... elle ne peut jamais être dans le silence. Voilà.
Comme tu dis, on y est en plein. Il y a l'appareil qui entre en vous, c'est comme ça qu'on la sauve après son suicide, qui entre en vous et qui est muni d'un œil. Et pendant ce temps, un autre appareil change votre sang. Il y a les murs écrans, bien sûr, les murs écrans. Il y en a trois chez Montag et Mildred. Et elle rêve d'en avoir un quatrième pour être complètement enfermée dans cette réalité virtuelle et pouvoir regarder jour et nuit ces acteurs qui sont censés être sa vraie famille. Il y a la porte d'entrée qui parle, on y est aussi. Et puis, il y a ce personnage qui, moi, me fait froid dans le dos malgré les incendies et les autodafés quand je lis et que je relis Fahrenheit. C'est le limier robot, le chien qui est chargé de traquer ceux qui auraient encore des livres, qui les liraient, ou qui en posséderaient ou qui en cacheraient. Et ce chien, il existe aujourd'hui pour nous. Il est mi-animal, mi-robot. Il existe en au moins trois versions. Il y a la version jouée, aujourd'hui, du chien-robot. Il y a la version aidante pour les personnes âgées. Et puis, il y a la version militaire. Il y a plusieurs armées qui expérimentent le chien-robot qui irait déposer des bombes dans les lignes ennemies. Donc, technologie et technologie prémonitoire.
Voilà, c'est en cela qu'on peut parler de science-fiction, effectivement, puisqu'il a, visiblement, c'est un peu documenté sur ce qui se tramait déjà dans les laboratoires militaires ou autres. Et puis, voilà, il a imaginé tout ça. Et aujourd'hui, tout ça est bien notre réalité. Alors, quand on lit le roman, moi, il y a plein d'autres choses, je pense, qu'il faut préciser pour ceux qui ne le connaîtraient pas et qui auraient envie de le lire. Alors, bien sûr, ça fait... On peut le relier à des livres comme « Le meilleur des mondes » d'Aldous Huxley, hein, mais qui date de 1932, donc c'est 20 ans plus tôt. Bien sûr, Orwell, 1984, hein, qui est publié en 49. Hein, les gens croient que c'est 48. Non, il l'a écrit en 48, d'où il a inversé les chiffres pour la date, mais c'est publié l'année d'après, en 49. Oui. Et puis, je crois que j'ai envie d'insister un peu sur le contexte, où l'époque à laquelle ça a été écrit. Donc, 53, ça paraît. On l'a écrit en 9 semaines, donc on va dire qu'il l'a écrit en 53. Mm-hmm. L'Amérique est sortie de la guerre. Hiroshima, Nagasaki sont pas loin. On a peur d'une troisième guerre mondiale. Dans le roman, c'est le cas. Hein. On a ces avions réaction qui passent à tout moment et qui fait qu'on ne peut plus parler, on ne peut plus rien faire.
Oui, il y a une guerre et il y a une bombe, il y a une explosion atomique à la fin.
Et ça se termine avec cette explosion atomique. On a cette culture de masse, ces médias de masse qui sont devenus, après la guerre, au lendemain de la guerre, un vrai souci. Hein. Pour ceux qui s'intéressent à ça, moi je relis Marshall McLuhan, la théorie de la communication qui va commencer... voilà, c'est son maître livre, La galaxie Gutenberg, c'est 62, donc c'est juste après. C'est cette société du loisir. Alors, j'ai envie de dire du loisir, pas du temps libre. Parce que Feber dit, pour lire les livres, il faut du temps libre.
Du temps libre pour réfléchir.
Pour réfléchir.
Parce que le reste du temps, on a les choses imbéciles. Et ça, voilà. Le capitaine des pompiers en parle. Il dit « Proposez des concours où l'on gagne en se souvenant des paroles de quelques chansons populaires, du nom de la capitale de tel ou tel état ou de la quantité de maïs récoltée dans l'Iowa l'année précédente. Voilà. » Ça rappelle des choses.
On a des jeux télévisés qui sont très exactement cela. Voilà. Donc cette société du loisir, qui n'est pas une société du temps libre, eh ben voilà, on avait un sociologue, 62 aussi, en France, Geoffre Dumasdier, qui publie « Vers une civilisation du loisir ». Donc c'est vraiment des questions d'actualité, et puis ce poids de la technologie qui domine absolument tout, hein, même pour sauver les vies, mais c'est une technologie froide, déshumanisée.
Ce ne sont pas des médecins, ce sont des machines.
Et voilà, et ben c'est, on a envie de dire, ben, plus tard, c'est des philosophes français comme Simondon, Jacques Ellul, qui vont écrire sur la technique, sur ce côté, la technologie, elle a son autonomie. Donc c'est un livre c'est un roman qui se lit très facilement, mais avec cet arrière-plan de sociologie critique, de philosophie, qui est extrêmement important. On pourrait aussi dire, moi ce qui me frappe, c'est ce côté, pardon, sérialisation des individus, on est tous pareils. Et juste après, on va avoir, comment il s'appelle, Andy Warhol, hein, quelques années après, qui va faire ses séries des boîtes de soupe Campbell's et puis les portraits de Marilyn Monroe pour prendre les choses qui sont les plus connues.
En série. C'est dit clairement d'ailleurs, on doit tous être pareils.
Et puis, Alors certains l'ont dit, mais non, c'est pas sûr que ce soit lié. C'est l'époque du McCarthyisme.
The Joseph McCarthy period, I consider to be one of the strangest, semi-frightening and ridiculous periods in American history. I myself wasn't so much afraid of him as I was angered by him. As a result of this, believing in the power of the individual, I wrote a whole series of short stories which turned into novels. The final novel being Fahrenheit 451.
Voilà, donc Ray Bradbury dit c'était bizarre cette époque du McCarthyisme, donc c'est pile le moment où il publie son roman. Hein. McCarthyisme, si ça évoque rien, vous avez dû entendre parler de ça, c'est la fameuse commission des activités anti-américaines. Alors, les États-Unis avaient peur du communisme, ça a commencé déjà avant, hein, mais avec McCarthy, ça prend une proportion énorme. On va voir cette fameuse liste noire à Hollywood, hein, des réalisateurs qui sont mis à l'index, qui ne peuvent plus tourner parce qu'ils ont des sympathies, ils sont de gauche, donc ils sont des agents infiltrés du pouvoir communiste, hein, de l'Union soviétique. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui vont amener cette écriture. Et quand on lit Fahrenheit 451, je trouve que c'est bien de l'avoir un petit peu en tête. Parce qu'on retrouve toutes ces dimensions. Alors, on parlait il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur Fahrenheit 451. Lisez-le, tout simplement. Lisez-le. Hein, c'est un grand roman sur les livres. Plus que sur les personnages, sur les livres. C'est ce qui a intéressé très particulièrement peut-être l'adaptation la plus célèbre qui a été faite d'un cinéaste français, François Truffaut, qui a tourné en Angleterre, son Fahrenheit 451. Écoutez ce qu'en dit François Truffaut, que tu as évoqué tout à l'heure.
J'ai lu le livre de Bradbury, Fahrenheit 451, pendant l'été 61, lorsque je venais de finir le Tirer sur le pianiste. C'est un ami qui m'a raconté ce livre au cours d'une conversation où il défendait la littérature science-fiction que j'attaquais en disant que ça n'intéressait que les gens qui n'ont pas d'imagination, que les vrais conflits sont dans la vie, enfin voilà. Et pour me convaincre, il me racontait plusieurs sujets, plusieurs livres de science-fiction, dont Fahrenheit. Et j'ai été conquis immédiatement probablement parce qu'il s'agissait d'un sujet sur les livres. Et je pensais déjà depuis quelque temps faire un film sur les livres, mais je ne savais pas encore quoi. J'avais rejeté une autre histoire à propos d'une institutrice, une histoire qui ne travaillait pas, et l'envie restait pour moi de faire ça. Alors ce qui m'a paru très excitant tout de suite dans Fahrenheit, avant même de le lire, c'est-à-dire de la façon dont il me le racontait, c'était ces trois éléments. Une société où il est interdit de lire, où on brûle les livres quand on les découvre, et le final de l'œuvre qui était que les gens, les intellectuels qui ont décidé de sauver la culture apprennent les livres par cœur. Alors ces trois choses étaient très importantes. Évidemment, j'ai lu le livre, j'ai retrouvé ces trois choses, plus bien d'autres détails qui n'ont fait que fortifier mon envie de faire. Mais j'avais mon troisième film à faire qui était Jus et Jim et que j'ai fait. Mais pendant Jus et Jim, je pensais beaucoup à ce sujet. Je crois même que j'ai mis dans Jus et Jim à un moment un brûlage de livres. Donc probablement déjà, j'avais été imprégné de ça. Et après, quand j'ai terminé, en 62, je suis allé présenter Jus et Jim à New York. J'ai demandé à rencontrer Bradbury, qui a fait le voyage exprès de Los Angeles en train, parce qu'il ne prend jamais l'avion, c'est un homme très craintif. Et évidemment, pour le rencontrer, j'ai lu tout ce qu'il avait écrit, et j'ai vraiment beaucoup aimé toutes ses nouvelles, ses romans, j'ai beaucoup aimé Chroniques martiennes aussi. Ce qui fait qu'on a pu discuter agréablement, et il m'a donné les droits de Fahrenheit 451, et la possibilité de l'adapter librement.
Voilà, hein, donc effectivement. Alors Truffaut a adapté librement, je crois que faut le souligner. Mais c'était un sacré travail. Il y a 3 ans de travail pour arriver à l'adaptation. Hein, donc, et puis il a gommé certains aspects du roman où peut-être des choses. Il voulait, lui, c'est les livres qui l'intéressaient. C'était pas tellement. On n'est plus le fantôme du conflit nucléaire. C'est quand même bien estompé en 66. Donc. La situation de guerre, elle disparaît du film de Truffaut. Bon, il rebaptise un personnage, Mildred va s'appeler Linda, peu importe, ça c'est pas essentiel. Par contre, il a cette idée, il explique, alors je renvoie les gens que ça intéresse au journal qu'il a tenu. Il a tenu un journal de tournage de Fahrenheit 451, et il explique un petit peu tout ça. Il a eu la bonne idée de donner le même, faire jouer Linda Mildred et Clarisse par la même comédienne, Julie Christie. Justement, pour dire, elles ne sont pas si différentes, elles sont peut-être plus proches qu'il n'y paraît. Il y a eu quelques problèmes avec l'autre comédien principal, Oscar Werner, qui avait tourné dans Julie Jim. C'est là qu'ils avaient la première fois travaillé ensemble. Bon, et ça ne s'est pas très bien passé avec Oscar Werner. Et à la fin du tournage, Truffaut espérait qu'il ne le reverrait jamais. Ce n'était à ce point-là. Alors oui, il a gommé la guerre. Il a aussi effacé certains éléments, comme le Fable, le personnage de Fable, donc, disparaît. Hein, c'est ce vieil homme que Montag rencontre dans un parc, qui lit de la poésie, puis il va le chercher comme appui. Et en même temps, il se confond. Il y a un très beau passage dans le livre. Il dit « Je deviens Montag et Fable à la fois. » Quoi. Hein. Ça, il a le chien, l'automate chien, hein, le robot chien que tu évoques, est aussi évacué. Hein. Et il y a quelque chose de beaucoup plus, par rapport au roman de Brodé, il y a quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus ironique. Jean-Louis Borry, qui était critique à l'époque, hein, Masque et la plume, qui écrivait aussi critique, j'ai relu ça et il disait il y avait une élégance et une ironie, un esprit de Truffaut qu'il trouvait très bien dans ce film. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur le ton du livre. Et en même temps, certains disent mais il a réussi à faire encore plus inquiétant parce que tout ça est ramené dans une espèce de banalité qui est assez effrayante. Alors le film a pris un petit peu un coup de vieux, hein, ça c'est vrai, 66, et puis il va développer, ça c'est il le fait très bien. Moi c'était les images qui me restaient du film des dizaines d'années après l'avoir vu, c'est les hommes livres, hein, ces fameux hommes livres, donc, qui sont des gens qui, pour mettre les livres à l'abri, les brûlent éventuellement eux-mêmes, mais après les avoir appris par cœur, ils les apprennent et ils se les récitent. Et ils se disent, quand il y aura eu la guerre et tout, que tout sera détruit, les livres auront été détruits, nous, on sera toujours là. Et nous pourrons réciter les livres, ils pourront de nouveau être réécrits, réimprimés, jusqu'à la prochaine catastrophe. Hein. Voilà, ça c'est l'adaptation de Truffaut. Alors il y a eu d'autres adaptations, on a eu une en bande dessinée, un certain Tim Hamilton, ça a été publié en France chez Casterman, là, j'ai la version originale. Alors c'est donné comme l'autorisation adaptée, l'adaptation autorisée, j'allais dire l'autorisation adaptée. Non, l'adaptation autorisée de Fahrenheit 451. Et c'est vrai que c'est très très fidèle au roman, il y a peu d'écart. Et puis on a eu en 2018... Ramin Barani qui a fait une adaptation en téléfilm de cette chose-là. Alors c'est une adaptation qui est intéressante quand on a lu le livre et qu'on a vu Truffaut, parce qu'il y a un mélange des deux. Alors il adapte des certaines choses, il fait disparaître l'épouse de Montag, ça ne l'intéresse pas. Par contre, il rajoute, dans un interview, il parle de ça, il dit il faut que tout le monde soit égaux. Tout le monde égaux, c'est-à-dire tout le monde comme les Blancs. Et du coup, il met un pompier, Montag est noir, il fait une lecture aussi de la domination blanche sur les Noirs aux États-Unis. Voilà, des choses comme ça. Et puis là, c'est pas que les livres, c'est les films, c'est la musique. Et puis, tout le film, on voit, c'est les gens like partout. Tout est suivi en direct sur les réseaux sociaux ou autres. Dès qu'il y a l'arrestation de Montag, y a plein de petits smileys qui passent devant l'écran et tout le monde est en train de liker, de disliker. Donc il nous dit bien, mais on est vraiment dans ce monde-là et peut-être encore plus que Ray Bradbury ne l'avait évoqué. Alors ça ne se passe pas aujourd'hui, hein, c'est tourné en 2018, mais ça se passe dans un futur plus ou moins déterminé. Mais en tout cas, il nous dit, on va vers cela. Hein, c'est assez inquiétant. Alors, c'est beaucoup plus spectaculaire que le film de Truffaut. Hein. On a des flammes et tout ce que vous voulez. Mais c'est une adaptation qui a... au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, ça va être... Non, mais c'est tout à fait intéressant à voir. Et on a ce personnage très ambigu. Ça, les deux films l'ont gardé. Et puis, il y a des références dans le film de 2018. Il y a des références au film de Truffaut. Il y a des choses qui sont reprises presque à l'identique. Voilà. Lisez, allez voir les films, louez les cassettes, allez sur les plateformes de streaming pour les regarder. Et ça parle des livres, de la littérature et de notre monde. Allez, je risque d'avoir un peu débordé. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Hélène. Et merci Adeline à la technique.
À bientôt.
How much there is to tell.
Dragos and Jin
asked.
At that moment, Mr. Pickwick was around the world.
I don't know.
He has a mother who was near to me.